This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Yo guys, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je peux te faire un vocal. Et aujourd'hui, j'ai une invitée. C'est Jade du podcast An Eye on You.
Hello.
Du coup, tu veux présenter un peu ton podcast peut-être?
Oui, allez. Bah moi du coup, mon podcast se nomme An Eye on You. Et du coup, je parle principalement de santé mentale, seule ou avec des invités.
Ouais, j'adore son podcast. Allez l'écouter. En plus, nos podcasts sortent le même jour.
Oui, parce qu'on est toutes les deux fans de transfert.
Exactement. Finalement. Ah, toi aussi, c'est pour transfert.
Oui, moi aussi, c'est pour transfert. Oui.
Mais à chaque fois, je me dis, le jeudi, purée, il n'y a pas assez de podcasts.
Mais vraiment, j'attends transfert comme ça toute la semaine. Là, j'ai écouté le dernier épisode en plus en venant.
Moi aussi, il était horrible.
Enfin, il était horrible, ouais. Mais très bien comme d'habitude.
C'est ton podcast préféré aussi. Hein.
Ouais. Je pense que tous les gens qui ont comme podcast préféré transfert sont des green flags.
Du coup, le sujet du jour, ça va être sur les attachements. J'en parle depuis tellement longtemps des attachements, il est temps enfin d'en parler en détail. Donc là, on va parler de l'attachement évitant et anxieux, parce que ça tombe bien, moi j'ai l'attachement évitant. Et
moi j'ai l'attachement anxieux, donc on est vraiment très différentes là-dessus.
On est complémentaires.
Ouais.
Allez, let's go.
Bon bah du coup, pour commencer cet épisode, on va définir quand même les quatre types d'attachements, parce que oui, il y en a quatre. C'est énorme quand même, quatre types d'attachements.
Au début, je pensais qu'il n'y en avait que deux, justement, enfin... C'est toi qui m'as appris qu'il y avait quatre types d'attachements.
Mmh.
Bah vas-y, dis, c'est quoi les quatre?
Du coup, il y a l'attachement secure, l'attachement anxieux soucieux, donc ça c'est le mien, l'attachement distant évitant, ça c'est celui d'Aveline, et l'attachement craintif évitant. Secure, en fait, c'est la normalité, on va dire, entre guillemets.
C'est les gens normaux qui n'ont aucun problème.
C'est les gens qui n'ont pas d'anxiété ou d'angoisse et qui se sentent à l'aise dans l'intimité comme dans l'indépendance. Du coup, ils ont un équilibre, en fait.
L'attachement évitant, c'est les gens qui sont ultra indépendants. C'est-à-dire qu'ils s'enfuient quand quelqu'un s'intéresse à eux et trouvent toujours un prétexte pour ne pas se mettre en couple car ils ont peur de l'attachement. C'est souvent des gens ultra indépendants et beaucoup de mecs, d'ailleurs.
Mais c'est souvent des hommes, du coup ?
Ouais. C'est plus des hommes qui sont ultra indépendants. En fait, c'est un peu le cliché du mec « Moi, j'ai besoin de personne, je gagne ma thune, j'ai pas besoin de meuf, je suis bien comme ça. Pourquoi se poser des problèmes lorsque tu peux être bien tout seul ?» Parce que pour les gens qui ont l'attachement évitant, se mettre en couple, c'est presque se mettre des bâtons dans les roues soi-même parce que tu te poses des problèmes à toi-même, quoi. Et en fait, c'est lié à une peur de perdre contrôle et de devenir irrationnel en tombant amoureux. Parce que quand on est amoureux, on fait vraiment des trucs qui n'ont aucun sens parfois. Et en fait, tous les attachements, ils sont en fait liés à un trauma, je pense, de l'enfance. Et par exemple, pour l'attachement évitant, c'est lié au fait que, par exemple, pendant ton enfance, t'as compris que tu pouvais compter que sur toi et que tu devais te débrouiller tout seul. Du coup, en grandissant, t'es en mode « Ok, je vais me débrouiller que par moi-même, en fait. »
Bah oui, parce que du coup, tout à l'heure, je regardais les définitions de ces quatre types d'attachements et il y avait les quatre types d'attachements chez l'adulte et chez l'enfant. Et du coup... Si vous tapez sur Google, Wikipédia, les quatre types d'attachement, ça explique que quand on est enfant, il y a ces quatre types d'attachement aussi. Et après, ça se développe quand on est adulte. Et chez l'enfant, il y a le type d'attachement qui s'appelle l'attachement désorganisé aussi.
Ah, mais je pensais que l'attachement désorganisé, c'était le type d'attachement qui liait l'anxieux et l'évitant.
Ok.
C'était les deux en même temps. Enfin,
et
je pensais.
Peut-être que c'est ça. En tout cas, ça dit, ça veut dire qu'il y a une absence d'une stratégie d'attachement cohérente montrée par des comportements contradictoires et désorientés, tels qu'approcher le dos en avant. Pas compris.
Approcher le dos en avant.
Le dos en avant. Ok, mais désorganisé, ça doit être genre, tu paniques à l'idée de... Il n'y a pas de communication, à l'idée de communiquer, à l'idée de t'attacher à une personne, quoi. Après, ça devient un attachement évitant quand tu grandis, je pense.
Enfin, c'est pas un cinquième type d'attachement ?
Non, c'est un type d'attachement dans les quatre types d'attachement quand t'es enfant.
Ok, d'accord.
Et ça varie quand t'es adulte après.
À toi d'expliquer ton attachement,
oui.
Maintenant.
Bah, du coup, moi, j'ai eu, je pense, je pense que je l'ai encore un petit peu, mais ça vire à l'attachement secure. Mais j'avais l'attachement anxieux-soucieux, qui est en fait une recherche de validation des autres tout le temps, d'approbation de nos sentiments, de nos initiatives par nos partenaires amicaux ou amoureux. On cherche aussi un haut niveau d'intimité. C'est des individus qui se montrent extrêmement dépendants des gens. Et du coup, on a tendance à être moins confiant, à avoir une vision beaucoup moins positive de nous-mêmes, à tout le temps se dévaloriser et à vivre en fait à travers notre partenaire ou nos partenaires. Et du coup, on a aussi un souci aussi de notre manque. Ce manque de confiance en soi, ça fait qu'on remet tout le temps en question ce que les gens vont nous dire dans les relations, comment ils vont agir envers nous, etc. On va tout le temps remettre en question ça, je pense. Quand même, c'est sûr.
Ok, du coup, maintenant, tu l'as plus, quoi.
Bah, j'ai l'impression que je l'ai encore un tout petit peu, mais pas aussi fort que quand je l'avais au lycée, par exemple.
Donne-nous un exemple. Au lycée, comment s'exprimait ton attachement anxieux ?
Ok. Au lycée, j'ai tout un contexte de j'avais un gros groupe d'amis. J'étais un peu dans les populaires, c'est horrible ce terme, ça me donne envie de vomir. Mais en gros, j'étais dans une classe qui s'appelait la classe sport. Du coup, dans ma classe, il y avait les footeux, les rugbyman, les basketteurs. Moi, j'étais gymnaste.
Oh, le cliché comme aux US.
Le cliché comme aux US.
Les gens qui font du sport, c'est les populaires.
Vraiment. En fait, c'était... Bah, en fait, les footballeurs étaient très tchatcheurs, dragueurs. Et du coup, en fait, il y avait beaucoup de meufs qui étaient sur eux, etc. Et moi, j'avais mon meilleur pote de l'époque et j'étais in love de lui, vraiment. J'étais en crush total. Et en fait, ce crush s'est transformé en quelque chose d'admiratif, en quelque chose de je passais toujours par lui, je voulais toujours qu'il valide parce qu'en fait, lui m'avait rejeté et m'avait un peu friendzonné. Et du coup, je me disais, mais si lui me rejette, personne d'autre voudra de moi. Et du coup, ça s'est un peu transformé en attachement anxieux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je recherchais toujours cette validation et au-delà de lui, je recherchais la validation de ce groupe, de ce groupe-là qui était les footeux, les sportifs, etc. Et du coup, je faisais vraiment, j'ai l'impression, quand j'y repense, et je pense que j'ai des souvenirs un peu qui se sont effacés, mais que je faisais tout pour lui et pour ces personnes-là, quoi. Genre, par exemple, en soirée, s'il allait mal, et j'allais tout le temps aller vers lui, tu vois, j'allais pas faire ma soirée. En fait, je vivais à travers lui, à travers ses gestes, à travers ce qu'il allait faire, à quelle heure il arrivait à la soirée, à quelle heure il arrivait à tel endroit et tout. Genre, au lycée, par exemple, il y a un épisode, il y en a plein, mais il y a un épisode, par exemple, où c'était les bacs blancs et il avait pas révisé. Et pendant l'épreuve du bac blanc, je lui ai passé ma copie pour qu'il recopie.
J'étais archi people pleaser.
Il y a d'autres trucs. Par exemple, il y a un moment où il avait cassé son téléphone. Mais en fait, il y a eu un truc où on se disputait en mode gentiment, tu vois, où je lui ai pris son téléphone et genre, il s'est éteint. Et il m'a dit, ah, tu m'as cassé mon téléphone, tu me dois des sous et tout. Et c'est horrible, je lui ai donné de l'argent alors qu'il avait déjà cassé son téléphone.
Oh my god, il a fait semblant.
Oui.
Et tu lui as vraiment donné de l'argent, il a pas refusé.
Oui, il a pas refusé.
Attends, vous étiez en couple ?
Non.
Ah, c'était juste
en fait,
un crush.
C'était un crush très fort et lui savait très bien que j'étais...
Il t'a manipulé, quoi.
Ouais. C'était un manipulateur aussi, je pense, mais qui a créé un gros sentiment d'attachement anxieux, comme on voit ici. Mais il y avait plein d'autres trucs, enfin, genre, par exemple, si je commençais un peu à me détacher de lui et que j'allais vers d'autres mecs, il allait souvent me dire « Ah, mais lui, il est pas assez bien pour toi » ou des choses comme ça. Et du coup, j'allais pas aller vers eux parce que je me disais, et j'avais aussi cet espoir de « Mais s'il me dit que ce mec est pas assez bien pour moi, c'est parce que c'est lui qui est bien pour moi et un jour, on va se mettre en couple, tu vois. » Et il avait un grand frère et il y avait un ami à moi qui m'avait dit « Ah, tu sais, son grand frère, l'autre fois, quand on était chez cette personne, il a dit « Ah, mais elle, garde-la sous la main, parce que quand tu seras adulte, tu verras, vous allez être en couple et tout. » Et comme cet ami m'avait dit ça, j'étais en mode « Ah bah, il va avoir un déclic, on va se mettre en couple. » En fait, je vivais dans l'espoir qu'un jour, il ait un déclic, qu'il se mette en couple avec moi, et que mes sentiments soient enfin validés par lui, tu vois.
Enfin, est-ce que vous vous êtes mis en couple au final ou pas ?
Au final, non, on s'est pas mis en couple. Jamais, jamais. Il y a eu une grosse dispute par rapport à un événement qui a fait que j'ai perdu tout ce groupe de potes. parce que du coup c'était un peu bromance et du coup bah ils sont potes avec toi mais au final comme t'es la seule fille ils se soutiennent entre eux et puis ensuite ils te rejettent toi. Donc toutes ces personnes du lycée j'ai plus du tout contact avec eux et ensuite je suis sortie du coup quand on s'est disputé avec mon ex et après j'ai plus du tout une nouvelle et là aujourd'hui maintenant je suis en couple avec mon copain actuel mais genre du coup on s'est jamais mis en couple, il m'a toujours fait espérer et même genre je crois en études supérieures un an après il m'a renvoyé un message pour me dire j'espère que tu vas bien et tout et bah en vrai, on s'est plus jamais reparlé. Enfin,
tu lui as pas répondu, j'espère.
Non, 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 non.
Les manipulateurs, c'est toujours comme ça. Quand ils te perdent, ils veulent revenir.
Parce que, en vrai, ils ont l'impression. Je pense qu'il avait vraiment un pouvoir sur moi. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, je pense. C'est un truc de ouf. Genre, je me souviens, histoire un peu honteuse, mais par exemple, il y a un événement où il m'avait demandé un nude. Et je l'avais envoyé.
Mais au lycée, c'est normal. On fait des dingueries. Hein.
On fait des dingueries. Et après, quand on y pense qu'on est adulte, ça nous empêche de dormir. C'est le moment où t'es dans ton lit et tu reprends. C'est un truc de 2015 et t'es en mode pourquoi j'ai fait ça? Mais ouais.
C'est pas grave. Il faut avoir la compassion pour son soi d'avant.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais et sinon, sur l'attachement anxieux, je pense que je l'ai eu amicalement aussi. Enfin, là, c'était plutôt amoureusement, même si on s'est jamais mis en couple. Mais amicalement, j'avais une meilleure amie pareille au lycée. Et en fait, je donnais tout pour elle. Alors que elle, par exemple, on a été amies 4 ans. En 4 ans, elle n'est jamais venue à un seul de mes anniversaires. Ouais. C'est fou. Elle avait toujours une excuse.
Mais c'est incroyable. En fait, quand on a l'attachement anxieux, tous les gens autour de nous, ils te respectent pas, en fait.
Non. Et du coup, t'es juste une victime. T'es là, genre, tu donnes ton amour à tout le monde à 100% et eux, ils sont là avec leurs 2% et sont en mode « Ouais, ouais, c'est une pote, quoi. »
Et toi, du coup, est-ce que t'as réussi à avoir un déclic à ce moment-là sur ton attachement anxieux?
J'ai eu un déclic, mais après le lycée, quand la dispute s'est passée. Et je me suis dit « Bon, c'est bon, je dois plus donner autant pour les gens qui me donnent pas en retour également. » Et ensuite, le déclic s'est surtout fait quand j'ai rencontré mon copain et que j'ai eu des amitiés saines en études supérieures, parce que j'ai vu que les gens pouvaient me donner autant que ce que moi je pouvais donner. Et du coup, là, ça a vraiment eu ce déclic où je me suis dit, bon, maintenant, je m'attache plus autant aux gens, mais j'essaye quand même d'avoir un cercle où c'est vraiment des vraies personnes qui m'aiment. Et voilà, genre par exemple, là, j'ai une copine pour mon anniversaire. Bon, après, chacun a son love language, tu vois. Mais pour mon anniversaire, elle m'a offert un cadeau, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Genre, c'est une grosse valise avec plein de trucs qui représentent chaque partie de notre amitié et tout, tu vois. Au lycée, j'aurais jamais eu ça, tu vois.
Trop chou, mais ça, c'est une vraie pote.
Ouais, vraiment.
En fait, c'est vraiment quand tu t'es détachée de ton attachement anxieux que t'as eu des vrais potes qui sont arrivés et qui sont des gens que tu méritais, quoi.
Ouais, et en même temps, je pense que, comme tu le dis souvent dans ton podcast, genre, ça fait partie du chemin de la vie, tu vois. C'est des signes aussi qui... Genre, maintenant, je me plains pas que ce soit que ça me soit arrivé, je suis pas triste. Ce que je me dis, ça m'a construit et forgé, même si j'aurais aimé être dans un environnement sain dès le début. Mais je me dis, au moins, maintenant, j'ai pris cette conscience-là et je me ferais plus marcher sur les pieds, tu vois. C'est un peu ça. Mais toi, du coup, est-ce que t'as déjà eu un attachement anxieux ou alors t'as toujours eu un attachement évitant?
Bah, tu vois, pendant que tu parlais, je réfléchis et je me suis dit qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais aussi un attachement anxieux.
Ah oui?
Ouais, mais amicalement.
Ok.
C'est-à-dire que je faisais aussi, pareil que toi, tout pour mes potes. Je me rappelle, même ma mère, elle me disait, mais arrête, tu te fais raqueter là. Parce que j'avais des potes, bah, elle me demandait de leur acheter des bonbons et je leur achetais des bonbons, quoi. Vraiment des trucs ridicules.
Et du coup, pour te faire accepter, en fait, tu faisais ça.
Exactement, parce que j'avais pas d'amis quand j'étais petite.
Oh. Maintenant, t'as des amis.
Maintenant, j'ai des amis, tu vois. Tout arrive pour une raison, encore une fois. Mais ouais, quand j'étais petite, ça va, j'avais des copines. Mais je sentais que c'était tendu. Je sentais que du jour au lendemain, si je ne suis plus intéressante, elles peuvent partir. Mmh. Et je me rappelle qu'avant de venir à l'école, je faisais des listes de sujets de conversation pour savoir de quoi parler pour être intéressante.
C'est horrible.
Vraiment. Ça, c'était au collège. Donc, au collège, j'avais des copines, mais j'avais peur de les perdre tout le temps.
Pour la liste, là, de sujets, et bah, tellement déjà l'attachement anxieux s'était fait avec ce meilleur ami au lycée. J'avais perdu toute confiance en moi parce que je me disais personne ne peut s'intéresser à moi et partir du jour au lendemain. Et avec mon ex, en vrai, il m'a un peu fait la même chose d'attachement évitant. Et du coup, quand j'ai commencé à parler à mon copain actuel, j'avais fait une liste de sujets de conversation.
Oh my god, ça c'est vraiment un truc d'attachement anxieux, je crois. Hein. T'as tellement peur d'être boring, la personne. En mode, en fait, faut se dire que dans la tête de quelqu'un qui a l'attachement anxieux, c'est en mode, si je suis boring, la personne elle va partir.
Oui.
Et c'est super toxique, en fait. Mais... si la personne n'est pas juste parce que tu parles d'un truc qui l'intéresse pas.
Mais vraiment, et du coup, en fait, quand t'as l'attachement anxieux, t'as tendance aussi à faire du love bombing, je pense. Où tu donnes trop d'un coup, sans après manipuler la personne et devenir toxique, etc., comme le vrai terme du love bombing et tout. Mais genre, on donne trop d'un coup, et du coup aussi, les personnes du coup qui ont un attachement évitant, comme toi, par exemple, peuvent se sentir tellement agressées d'un coup, tu vois.
Non, je suis d'accord, parce que du coup, maintenant, j'ai l'attachement évitant. Mm-hmm. En fait, c'est parti d'un extrême à l'autre. En gros, j'ai compris que je pouvais compter que sur moi-même. Quand j'ai compris que j'avais pas trop d'amis et tout, je me suis dit, à partir de maintenant, je m'en fous. Je suis devenue archiflégonne. Vraiment, les gens, ils étaient en mode, on dirait que tu t'en fous de tout. J'arrivais en retard au collège et je disais même pas pardon au prof quand j'arrivais, je m'asseyais. Et vraiment, les gens, ils étaient en mode, mais elle s'en fout, cette meuf. Ah non, ça, c'était au lycée. Et vraiment, c'était devenu mon trait de personnalité de m'en foutre.
Ok, t'étais en mode sagittaire.
Peut-être, je savais pas que c'était un truc de sagittaire. Moi, je pense que ça fait plus Capricorne, non, mais un peu froid et tout.
Bah non, parce que les Capricorne, oui, un peu froid, mais s'en foutent d'arriver en retard au lycée, pas du tout Capricorne, puisqu'ils adorent le taf.
Ah, c'est vrai. Du coup, je m'en foutais de tout, et ça a contaminé un peu la relation amoureuse, parce que du coup, aujourd'hui, en fait, je me rendais pas compte avant. Avant, je me disais juste, non, mais c'est juste qu'il y a aucun mec qui m'intéresse, etc. Mais là, plus le temps passe, plus je fais des podcasts, et plus je réfléchis, et je me dis, je crois que j'ai un attachement évident. Je connaissais même pas ce mot il y a un an.
Moi, j'ai découvert les types d'attachement grâce à ton podcast. Hein.
Ah bon, sérieux?
Mais oui.
Bah, c'est vraiment, en fait, je crois qu'aux États-Unis, ils connaissent de ouf, mais en France, pas assez.
Ouais.
Et c'est là que je me suis dit, purée, mais là, ils sont en train de décrire l'attachement évitant, comme la définition que j'ai dit au début, en mode, les personnes qui s'enfuient quand on s'intéresse à eux, qui ont peur de l'engagement, et je me suis dit, oh my god, c'est moi.
Oh my god. À l'aide.
J'ai calculé, ça fait maintenant 5 ans que je suis célib. Le dernier mec que j'ai eu, mon ex, j'en ai eu qu'un seul. Et j'étais pas du tout attachée à lui. En fait, j'ai fait un peu une introspection avec mon enfance et je me suis rendu compte que quand j'étais petite, comme je suis l'aînée d'une famille d'Asiates, on a toujours compté sur moi. Enfin, c'était un peu en mode, elle est tellement parfaite, cette enfant, c'est l'enfant qui pose pas de problème. J'étais autonome, du coup, ils avaient pas besoin de m'aider.
I can relate that.
Ah, toi aussi. Ouais.
Mes parents m'ont jamais aidé à faire mes devoirs ou des trucs comme ça, genre. Parce qu'ils ont toujours décrété que j'étais autonome et que je pouvais gérer mes frères et sœurs aussi, tu vois.
T'es l'aînée aussi ?
L'aînée d'une famille, du coup, asiate, mais ma mère n'est pas asiatique, elle est blanche bretonne. Mais oui, sinon, oui. Enfin, même de mes cousines, je suis l'aînée et tout, donc oui.
Ouais, c'est ça, bah, en fait, tout le monde compte sur toi, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, purée, il faut que je sois indépendante, je peux compter sur personne. Et j'ai même eu dans mon enfance un moment où j'ai eu vraiment peur parce que mes parents, ils ont des problèmes financiers auparavant. Et je cherchais des solutions. Et même, j'allais au supermarché, j'achetais des trucs les moins chers. Et vraiment, j'étais en mode, faut que j'aide ma famille. Alors que j'avais genre 10 ans. Et c'est pour ça que c'est des trucs qui sont ancrés en moi, qui aujourd'hui font que je veux avoir le contrôle. Quand j'étais petite, j'ai cru que j'allais finir à la rue. En fait, j'aurais jamais fini à la rue. Puisque les familles asiates, on s'entraide.
Oui, on s'entraide.
Au pire, je serais allée habiter chez ma grand-mère, quoi. Mais sur le coup, quand t'es enfant, t'es en mode « Oh my god, je vais finir dans une tente et tout. »
Tu vois le pire direct, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, j'avais tellement peur de l'avenir qu'en grandissant, je me suis dit « Moi, j'aurai le contrôle sur mon argent, j'aurai le contrôle sur ma vie amoureuse, sur tout. Et jamais quelqu'un va perturber ma vie. » Voilà, en fait, j'aime trop l'indépendance. C'est pour ça que je suis célibataire. Et c'est là que j'ai compris.
Ok, mais du coup, tu vois, sachant que moi, je suis en couple depuis, là, ça va faire 6 ans, tellement énorme, genre.
Félicitations.
Merci, mais je me dis, là, tu vois les couples comme quelque chose d'un peu négatif, du coup.
Bah, en fait, je sais pas, parce que à la fois, je suis archi romantique comme meuf, je regarde énormément de shoujo, drama, manga, et chaque fois, j'aime bien les trucs d'amour, donc j'adore ça. Mais en même temps, parfois, je vois des gens en couple et je me dis, oh purée, enfin, même des gens qui se marient ou qui font des enfants, je me dis, oh purée, ça va être chiant maintenant pour voyager pour eux ou là, ils se marient, mais ils vont être ensemble pour toute leur vie, c'est chaud et tout. Et en fait, je me dis des trucs comme ça.
Mais oui, tu m'étonnes parce que même, bah, du coup, moi, j'ai eu souvent la remarque de, en gros, j'ai eu qu'un ex avant mon copain. Donc, en gros, j'ai eu 2 relations, quoi. Et du coup, les gens me disent, mais tu vas pas regretter parce que tu vas pas avoir beaucoup d'expérience, etc., avec, en amour, quoi. Et du coup, ma réponse, c'est juste, bah, si, j'aurais beaucoup d'expérience avec la même personne. Je pense que tu assimiles peut-être les relations de couple au négatif, à beaucoup de parties négatives d'un couple, en mode, je sais qu'il y avait un pote à nous, à mon mec et moi, qui voyait le couple comme un fardeau, comme on disait au début, en mode, faut tout le temps envoyer des messages, faut tout le temps dire ça va, faut tout le temps prendre soin de la personne en face de toi. Mais du coup, comme moi, ça fait longtemps que je suis en couple, je le vois pas trop comme ça, je le vois plutôt de, j'ai un partenaire avec qui je peux échanger tout, pardon. Allô ?
Non, j'enregistre un podcast.
Non, c'est ton mec qui t'a appelé ? Oui. Bah, comme par hasard, tu parles de lui, il t'appelle.
Vraiment, il m'appelle. En fait, du coup, comme moi, ça fait 6 ans, j'ai l'impression que comme j'avais déjà l'attachement anxieux en plus, je me suis jamais posé la question de « Ah, mais là, on va rester combien de temps ensemble ? Ça va être un peu trop et tout. » Et du coup, je me dis « Bah là, c'est cool parce que j'ai un partenaire qui me connaît de A à Z. » Genre, je pense que c'est la seule personne avec qui je suis 100%, vraiment 100% moi-même, tu vois. Dingue. Et du coup, je vois comme ça le couple, moi.
En vrai, je pense que c'est comme ça, les relations saines, en fait. Et c'est juste qu'on a tellement pas l'habitude d'en voir, exactement, que ce soit dans les films ou quoi, que les gens ils sont en mode mais tu vas pas t'ennuyer, ça va être boring, alors que pas du tout.
Oui, pas du tout, parce que du coup tu peux parler de tout en fait, genre vraiment tous les sujets, et puis en plus sur plein de sujets, genre le féminisme et tout, il a été éduqué bien avant qu'on soit ensemble ou des trucs comme ça, donc c'est pas un truc où on a des débats dessus, tu vois, par exemple sur ce point là qui est important pour moi. Mais oui, c'est relations saines. Et par exemple au début, comme j'avais vécu des relations un peu toxiques avec l'attachement anxieux, j'étais en mode mais pourquoi il est gentil avec moi, genre est-ce que je mérite qu'il soit gentil avec moi, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça quand t'as n'importe quel type d'attachement, tu vas directement soit rejeter la personne, soit te rejeter toi-même par rapport à cette personne parce que tu vas te demander si toi, tu mérites ça. Genre, je pense qu'il y a ça aussi, un côté comme ça.
C'est vrai. De toute façon, je pense que ton pote qui disait que le couple, c'est un fardeau, est-ce que c'est parce qu'il n'est jamais tombé amoureux auparavant ?
Ouais, je crois que c'était ça.
Ouais, je pense que quand... Enfin, moi non plus, je suis jamais tombée amoureuse. Du coup, je pense que c'est vraiment un mindset d'une personne qui n'est jamais tombée amoureuse. Et quand t'es vraiment avec la bonne personne, t'es amoureux et tout, je pense que d'un coup, tu voles en éclats, quoi, tu comprends.
Ouais, tu te poses plus de questions aussi, je pense. Surtout si la relation est saine des deux côtés, genre si la personne avec toi est saine. Parce que je pense aussi que tomber sur la bonne personne, ça joue aussi beaucoup. Si la personne est saine ou plutôt toxique. Parce que par exemple, si je m'étais mis en couple avec ce meilleur ami au lycée, je sais pas comment la relation aurait fini. Parce que dans tous les cas, j'aurais eu un attachement hyper fort envers lui. Lui, il aurait peut-être continué de me manipuler dans la relation. Au final, et bah, ça aurait été une relation complètement toxique, tu vois. Et du coup, j'aurais peut-être pu développer un attachement évitant. Parce que je me serais dit, il faut plus que je m'attache comme ça, tu vois. Alors que là, comme je suis avec une personne qui est saine, qui prend en compte ce que je ressens, etc., quand ça va pas, et ben je sais que je peux lui faire confiance à 100%.
Et du coup, c'est lui qui t'a un peu guéri de ton attachement anxieux.
Ouais, un peu. Et mes copines aussi que je me suis fait après. Je trouve que les relations amicales, ça joue vachement aussi sur tes sentiments.
Mais après, j'ai l'impression que c'est différent quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai un attachement évitant amoureux, mais avec mes copines, j'ai pas d'attachement évitant. Je suis...
Ouais, t'es 100%. Ouais, t'es sereine.
Ouais, vraiment. Limite un peu évitant parce que je réponds pas trop à leurs messages. Désolée les copines. J'ai pas les notifications sur mon téléphone.
Mais du coup, ça c'est peut-être parce que t'as une vision de la confiance qui est différente en amitié et en amour.
Ouais, je pense que c'est par rapport au modèle qu'on a. En fait, dans mon entourage, surtout chez les couples, tu sais, les parents asiates, tu vois pas trop comment ça se passe une relation amoureuse.
Vraiment.
C'est pas des bons modèles en vrai. Et c'est pour ça qu'on est un peu perdu, je pense.
Ouais, je pense. Y a tes parents, ils ont beaucoup de signes affectifs l'un envers l'autre.
Pas vraiment, ils sont super pudiques.
Ok.
Ouais, quand j'étais petite, j'étais en mode, mais pourquoi ils s'embrassent pas comme dans les films ?
Et c'est peut-être pour ça aussi que quand quelqu'un est... Je sais pas si t'as déjà eu un date qui était hyper affectif ou démonstratif avec toi, ça te...
Oh non, je peux pas. Hier, il y a un mec, il m'a touché le... Enfin, tu sais, des fois, il y a des gens, ils sont un peu tactiles, quoi. Et j'étais en mode, mais pourquoi il me touche ? Juste, il m'a touché le dos, en fait. Trop bizarre, le mec.
Oui, des fois, c'est ça aussi. Ça joue comment tes parents étaient quand t'étais petite ou ouais. Même dans ta famille. Genre, je sais que moi, avec ma sœur, on peut pas se faire de câlin, par exemple.
Vous non plus, vous n'êtes pas très tactile.
On n'est pas du tout tactile.
Puisqu'on parle de guérir, c'est la transition parfaite. Hein.
Bah,
comment guérir ? Alors, comment guérir son attachement ? Est-ce qu'on a fini de parler sur tout le reste ? Anecdote de attachement évitant. Comme je suis en mode attachement évitant, j'ai pas d'anecdote puisque je fuis tout le temps.
Bah, juste, oui, tu fuis, en fait.
Oui,
tu fuis.
En fait,
même en date.
En fait, j'ai plein de first date. Je suis la pro des apps de rencontre. Ça fait des années que je suis sur les apps de rencontre. J'ai un peu honte de dire ça, mais vas-y, j'assume.
Bah, en vrai, il y a beaucoup de monde qui sont dans ta situation, je pense.
Je sais pas. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens. Les gens qui ont des attachements sécures, qui se mettent en couple normalement, ils vont sur les apps de rencontre. Et en général, au bout d'une semaine, ils font un first date, second date, et ils trouvent la bonne personne. Je sais pas ça, je trouve ça magique. J'ai plein de potes comme ça. Genre, ils vont sur l'app et ouais. Ils trouvent direct la bonne personne.
Bah, ça, je pense, je sais pas comment ça peut se faire parce que là, par exemple, le scénario, si je me sépare de mon copain, je sais pas si je pourrais retrouver quelqu'un qui me correspond, tu vois.
Les apps, elles sont bien faites. Surtout ouais. Inge.
Oui, j'avoue. Surtout Inge. Placement de produit.
Non, je rigole. ce podcast n'est pas sponsorisé par Inge. Mais en vrai, Inge, c'est pas mal pour le profil parce qu'il te filtre bien ton style de personne, en
okay.
fait. J'ai plein de potes, bah, ils ont fait un ou deux dates et ils ont trouvé la bonne personne. Et je suis en mode, en fait, je pense qu'on n'a pas qu'un soulmate dans la vie.
Non, je
on
pense pas.
On en a
pas.
Plein.
Ouais.
Et c'est l'une des personnes, bah, tu peux la trouver sur une app de rencontre. Quoi.
Ah, mais ouais, moi je pense qu'on a plein de soulmates et plein de soulmates différents, amoureux, amicales et tout. Moi je sais que là, ma meilleure amie, pour moi, c'est soulmate amical, tu vois. Mais je sais que je peux avoir des coups de cœur avec plein de monde.
Ouais, je suis d'accord. C'est faux de se dire, ouais, si je quitte cette personne, je trouverai jamais quelqu'un pour moi. En réalité, tu peux ressentir la même chose pour une autre personne.
C'est ça.
Et même un peu différemment, mais à la même intensité. Bref. Et du coup, je suis sur les apps de rencontre depuis que j'ai 18 ans, 19 ans.
Ok.
Ça fait vraiment un bon bout de temps. À chaque fois, je supprime, je retélécharge et à chaque fois, je fais des first dates et jamais, très rarement, je revois les mecs. Je les vois qu'une fois. Je les vois une fois et je me dis non. Et c'est bizarre.
Et est-ce que tu te focuses aussi sur des critères qui te dégoûtent d'un coup et du coup, paf,
oui. Ok. Je sais que c'est pas bien. Genre, il y a un truc qui me saoule et je me dis ok, ciao.
En vrai, est-ce que quand je dis je sais pas si je retrouverai un mec si je suis plus en couple avec mon mec, genre un jour, tu vois. Parce qu'en fait, quand
certains
je vois certains mecs, et bah genre, ils vont faire un truc et je vais être en mode. Pourquoi ? Genre, et du coup, j'ai peu d'amis mecs. Parce que, en fait, il y a des comportements chez certains mecs qui sont tellement phobiques. Et du coup, je te comprends de ouf quand
t'as
tu dis ça.
T'as des exemples ?
Je sais pas, genre, pour moi, l'exemple typique du mec phobique, mais ça, c'est normal, c'est genre, si le mec, il est pas éduqué sur le féminisme, genre, pour
mais
moi...
Mais ça, c'est la base.
Mais ça, c'est la base. Ou alors, si, je sais pas, moi, je me souviens, il y avait un mec en étude avec moi, sa mère, elle venait lui faire le ménage toutes les semaines, genre, tu peux pas le faire toi-même.
Ça, c'est comment ?
Ça, c'est... Mais ça, c'est comment ? Et je le sais grâce à ton podcast, mais ça me... c'est ma phobie. Ou je sais pas, genre juste des petits trucs, genre par exemple, j'ai une copine et j'espère qu'elle écoutera ce podcast pour se sentir bien visée. Un jour, elle a fait « Oh là là, le mec chez qui j'ai dormi, il a de la crème hydratante !» Waouh, super, il se met de la crème hydratante. Waouh, super, tu vas t'exclaffer parce qu'il se brosse les dents, genre merci, il a une hygiène. Enfin, genre tu vois, du coup, je suis en mode « Désolée, je les juge trop facilement les mecs, je pense. »
C'est vrai, mais en même temps, c'est vrai, il y en a, ils abusent, la barre, elle est un peu au sol.
Ouais.
Mais j'ai l'impression, justement, ça va beaucoup mieux qu'avant. Genre, les mecs, ils sont plus éduqués maintenant, heureusement. Ou bien peut-être, parce que je manifeste des mecs éduqués. Parce que auparavant, je disais tout le temps, les mecs, ils sont tous comme ça, les mecs, ils sont tous comme ça, et je rencontrais que des mecs comme ça. Et maintenant que je me dis, il y a plein de mecs bien, je rencontre plein de mecs bien.
Ah bah, peut-être que ton manifesting va marcher.
Le
matin, 2024,
je crois. 2024, c'est mon année. Oh. Bref. Tout ça pour dire que du coup, les mecs sur les apps de rencontre, je les vois qu'une fois à chaque fois. J'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que moins les mecs me calculent et plus je pense à eux.
Parce que ton attachement évitant se transforme en même temps en t'as envie qu'ils te calculent, même si toi tu les calcules pas, genre.
Ouais, c'est ça. Et après, là, par exemple, hier, j'ai reçu un message d'un mec. Ça m'a dégoûtée. J'aime pas les mecs qui m'harcèlent. Ils m'envoient des messages partout pour prendre de mes nouvelles.
Mais si tu réponds pas, bah ouais, ça dégoûte ça un peu.
Mais c'est dégoûtant, non ?
Bah oui.
c'est juste moi.
Non, non, je te jure, moi j'ai le hic très facile. Faudrait qu'on fasse un épisode, les hics. Mais je te jure que, genre, si un mec fait ça, genre, non, je peux pas.
C'est too much. Je pense que quand t'es en relation avec quelqu'un, il faut que ça soit équilibré. Il faut que chacun des deux s'intéresse de la même manière. Et c'est toxique, justement, de faire le coup du « j'ignore la personne pendant 2 heures, j'ignore la personne pendant 3 jours, qu'elle pense à moi ». Enfin, ça, c'est toxique, tu vois. Moi, si j'ignore les gens... C'est parce que je suis occupée.
Oui, voilà, faut trouver le juste milieu entre se dire que la personne à qui vous parlez travaille ou est occupée et vous répondra plus tard, au lieu de la harceler parce que vous pensez qu'elle vous ignore. Mais je pense que ça, c'est parce que les gens qui font ça sont souvent tombés sur des gens qui les ghostent, par exemple.
C'est vrai, ouais, malheureusement. Les mecs, je les vois qu'une fois. Et en général, après, lorsqu'ils reviennent, m'envoient trop de messages et tout. Parce que j'ai souvent la flemme de revoir les gens une deuxième fois, vu que j'ai un peu le hic facile. Bref, je fais une introspection sur moi-même et je me dis, c'est pas normal que j'ai le hic aussi facile au premier date. En fait, plus le temps passe et plus je me dis, je pense que je me sabote moi-même. Je vois un mec, je lui trouve trop de défauts à chaque fois. Alors que le mec, il est bien, en fait.
Mais c'est peut-être un symptôme de l'attachement évitant, justement.
Exactement. Bah, c'est ça mon problème, quoi. C'est ça que je voulais dire pour décrire mes anecdotes.
Et est-ce que c'est parce que t'as des critères trop précis ?
Il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai des critères trop élevés. J'ai 108 critères.
Mais t'avais fait un live Twitch, tu disais tes 108 critères.
Oui, j'ai 108 critères, mais c'est une technique de manifestation. C'est faux, c'est-à-dire que quand je vois un mec, je regarde pas s'il a les 108 critères. Mm-hmm. Mais j'ai pas mal de critères pour savoir c'est quoi mes standards.
C'est quoi, par exemple, ton top 5 de critères qu'il faut absolument qu'un mec ait ?
C'est compliqué. Du coup, d'abord, faut qu'il soit respectueux des gens, il faut qu'il soit respectueux des gens, que ce soit ses parents, le serveur, les gens en général. Faut pas qu'il soit méprisant des gens. Ça, c'est super important pour moi. Il faut qu'il ait des objectifs dans la vie, que j'arrive à me visualiser avec lui à long terme, puisque moi, je suis une personne assez indépendante, ambitieuse. J'ai besoin de quelqu'un qui soit pareil que moi. Pas quelqu'un qui soit justement en mode attachement anxieux, qui tourne toute sa vie autour de moi, quoi. Ça, c'est ma phobie. Ensuite, 3, faut pas qu'il soit radin. Je déteste les mecs radins, les mecs michetos. Ça, je pense qu'on a compris.
Ouais, de fou.
4. C'est gérer ses émotions correctement. Pas de violence, par exemple. Il y a des mecs qui s'énervent, ils tapent dans les murs.
Ma phobie.
Ils balancent des assiettes. Moi aussi, c'est ma phobie. J'arrive pas à croire qu'il y a des mecs comme
ça. Ou qui haussent le ton en mode qui crient de ouf à te faire peur, genre.
Ouais, les mecs comme ça, c'est chaud. Faut aller voir un psy.
Vraiment.
Bah oui, de critères évidents. Pas raciste, pas homophobe, respectueux des femmes, tout ça.
Ça, critères évidents.
Et toi, c'est quoi tes critères ?
Bah du coup, moi, j'ai même pas de liste. En vrai, je pense que c'est un peu les mêmes critères que toi. C'est genre respectueux, pas raciste, pas violent, pas féministe, justement. Il faut qu'il soit féministe, pas homophobe, tout ça. Une bonne communication aussi. Sait communiquer et sait... aussi, ça va ensemble, mais reconnaître ses erreurs.
Ah, ça, c'est important, je ne l'ai même pas écrit. Ouais. Tu vois, il rajoute cette liste.
Vas-y, ça fait 109. Reconnaître ses erreurs, parce que dans les disputes, je déteste quand la personne se ferme et que, genre, du coup, tu ne peux pas parler avec la personne, tu sais.
Il y a énormément de personnes comme ça qui ont un trop gros ego, ouais, qui ne veulent pas en parler.
Et en vrai, j'aime bien aussi, pour le cinquième, je vais dire, c'est se mettre en valeur et mettre en valeur la personne avec qui il est.
Genre saucier sa meuf, quoi.
Ouais.
En mode, t'es trop belle.
Et aussi reconnaître la valeur de la personne avec qui il est et sa valeur, et du coup, bien se comporter, quoi, en fait. Genre, tu sais que t'es avec cette personne et que tu l'aimes, bah, du coup, ça fait un peu partie du respect, mais tu vas un peu aussi, pas tout donner, mais tu vois ce que je veux dire, genre, juste être respectueux avec elle, quoi.
C'est vrai, parce que en fait, si tu sors avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur, qui se croit supérieur à toi, bah, il va te traiter trop mal. Il va se dire, bon, bah, elle, de toute façon, je lui fais n'importe quoi, je peux la tromper, elle va toujours revenir.
Exactement. Et d'ailleurs, dans mes critères, il y a aussi la fidélité.
À la base, hein, j'arrive pas à croire qu'il faut l'écrire.
Non, mais vraiment, faut pas l'écrire, mais la fidélité, parce que mes copines, il y a trop eu d'histoires avec ça, et c'est pas ok. Et j'ai jamais été trompée, et je touche du bois pour ne jamais l'être, mais en tout cas, la fidélité, c'est genre la base. Ça fait partie du respect, de toute manière.
Et on va faire un podcast de 2 heures.
Ouais, vraiment. Alors, bah, du coup, on peut passer à comment guérir de son attachement.
Exactement, comment guérir de son attachement. T'avais déjà commencé à en parler tout à l'heure.
Mais oui, c'est vrai. Point numéro 1.
Prise de conscience.
Prise de conscience, c'est vrai. C'est prendre conscience que vous avez ce type d'attachement. Est-ce que toi, du coup, t'en as pris conscience ?
J'en ai pris conscience, justement, en écoutant une vidéo YouTube ou un podcast, je sais plus. Mais du coup, là, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, il y en a sûrement plein qui vont avoir une prise de conscience grâce à nous.
Vraiment, on est trop fortes.
Ouais. Vraiment, on se sauce.
Et du coup, si vous prenez conscience de votre type d'attachement, ça passe à la deuxième étape, non ? La deuxième étape, c'est l'autocompassion. Et comme tu me disais tout à l'heure, il faut que j'aie de la compassion envers la moi du lycée. Mais en vrai, l'attachement, les types d'attachement, ça vient aussi de votre enfance, ça vient de plein de trucs psychologiques, je pense, de notre vie, de notre construction. Donc, il faut avoir de la compassion envers vous-même et essayer de travailler sur vous-même.
Ouais, en fait, il ne faut pas se dire « je suis un monstre ». Par exemple, moi, au début, quand j'ai su que j'avais l'attachement évitant, je me suis dit « pire, je suis trop une bitch ». C'est pour ça que enfin, je suis sans cœur. Alors qu'en réalité, il faut se dire que c'est lié à des traumas d'enfance et que ce n'est pas de votre faute, en fait, si vous avez un attachement anxieux ou évitant.
Et puis, en plus, si vous en prenez conscience, c'est déjà le début d'un long travail, je pense. Genre, prendre conscience qu'on a un type d'attachement, c'est quand même un big truc, genre, je pense.
Bah, c'est énorme. Et c'est à partir du moment où tu le sais que tu peux travailler dessus et guérir.
Grave.
Alors, ensuite, troisième point pour guérir de son attachement, c'est trouver la bonne personne. Donc, ouais. Tu peux en parler.
Ouais. Bah, trouver la bonne personne, du coup, c'est être dans un environnement sain, vous entourer de personnes qui vous valorisent, qui comprennent vos émotions, vos sentiments. Et vous aussi, il faut comprendre leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments. Et avoir une bonne communication avec les personnes qui vous entourent. Pour si justement vous avez un attachement anxieux et une dépendance affective comme moi, parler avec ces personnes, de voir comment vous pouvez vous améliorer et comment vous pouvez intégrer un petit peu cet attachement dans vos relations tout en travaillant sur vous-même pour pas que ça étouffe, par exemple avec un attachement anxieux, les personnes autour de vous. Et pour toi, par exemple ?
Moi, j'ai pas encore trouvé la bonne personne. Je pense que c'est pas une étape obligatoire, c'est bien sûr facultatif, mais ça aide d'être avec une personne qui saurait te mettre en sécurité et guérir ton attachement. Mais attention, énormément de personnes qui ont un attachement anxieux se mettent avec des personnes qui ont un attachement évitant. C'est une mécanique très dangereuse. Il faut vraiment que les deux travaillent pour mettre à l'aise l'autre.
Oui, parce qu'en vrai, faut pas que ce troisième conseil se transforme en compter sur l'autre pour changer. Vous pouvez pas faire reposer tous vos soucis sur une personne, parce que sinon c'est trop gros pour la personne et elle va partir. Donc d'abord faites un travail sur vous-même et ensuite si vous rencontrez la bonne personne, continuez ce travail sur vous-même tout en vous entourant de personnes saines finalement. Ça va vous aider dans votre travail.
Quatrième conseil pour guérir de son attachement anxieux ou évitant, ou les deux, la thérapie. On le dira jamais assez.
Ouais, c'est une très bonne initiative et c'est ce qui va vous permettre de faire un travail avec vous-même et avec une personne qui n'est pas proche de vous, donc qui n'absorbera pas toutes vos émotions.
Oui, donc thérapie individuelle d'abord. Je pense qu'en 2024, tout le monde devrait voir un psy parce qu'il y a trop de gens, comme ils ne sont pas allés voir le psy, bah, ils traumatisent d'autres gens.
Ouais, Olivia Rodrigo le dit dans une chanson. Elle dit « hurt people, hurt people ».
Et en plus, je crois que c'est remboursé. Normalement, vous pouvez aller voir le psy gratuitement avec le dispositif Mon Soutien Psy. Mais je vous recommande de regarder quand même, de vérifier parce que je l'ai pas testé encore.
Ouais, moi non plus. Mais allez-y en tout cas.
T'es déjà allé voir le psy ?
Je suis déjà allé voir le psy, ouais. J'ai vu 3 psys.
Et tu recommandes ?
Je recommande d'aller voir le psy. Ça m'a fait du bien. En 2024, comme maintenant j'ai un salaire stable, je vais aller voir le psy.
Moi aussi, maintenant en 2024, je vais aller voir le psy.
Trop bien, faites comme nous. Alors. Mais voilà.
Et ensuite, thérapie de couple. À Skip, c'est bien les thérapies de couple. Ça permet de délier les langues et tout. Tout ce que tu n'oses pas dire, tu peux le dire devant ton thérapeute. Et ouais, je pense que c'est pas mal, hein, mais j'ai jamais vu de thérapeute de couple, perso.
Bah, perso, non, moi non plus. Enfin, nous non plus, du coup. En fait, je pense que la thérapie de couple, beaucoup de jeunes de notre génération ont peur d'y aller parce que c'est connoté comme un truc de quand t'as 40 ans de mariage dans les pattes et que voilà. Mais en vrai, si jamais vous n'arrivez pas assez à communiquer avec votre partenaire, allez-y, hein. C'est pas une honte d'aller voir un thérapeute. Si ça peut aller mieux dans votre couple ensuite, c'est tout bénef.
Je suis d'accord. Bah, en fait, dès qu'il y a une autre personne, direct, tu peux tout voir sous une autre perspective, quoi, avec le psy.
Et c'est des professionnels, n'oubliez pas, ils ont des vrais bons conseils.
Ouais, et je me demande vraiment comment les psys y font d'ailleurs, parce que moi, je pourrais tellement pas absorber autant d'énergie négative toute la journée.
Bah, ma cousine, elle est en étude de psy. Bah, chacun de ses stages, les psys avaient un psy.
Ah.
Mais du coup, les psys qui ont des psys, comment les psys de psys, ils ont un psy aussi.
Enfin, attends, les psys ont des psys?
Il y a certains psys qui ont des psys, ouais.
Bah ouais.
Et aussi, je pense qu'ils arrivent à faire quand même une dissociation entre leur travail et leur environnement perso.
Et du coup, tu parlais communication, et c'est le dernier conseil, le cinquième conseil, communiquer. Ça, c'est le conseil qu'on dit à tous les podcasts.
Mais c'est important, communiquer. N'ayez pas honte d'exprimer vos sentiments. C'est humain d'avoir des émotions et des sentiments et des ressentis. Donc, communiquez avec les gens autour de vous. Et surtout, si vous avez écouté le troisième conseil qui est de s'entourer de bonnes personnes, et bah, si vous communiquez avec ces bonnes personnes, il y aura de bonnes réactions, donc vous pourrez avancer tranquille.
Ouais, et franchement, si la personne, elle prend mal que vous lui dites quand vous essayez de communiquer, red flag, hein. C'est pas normal de pas vouloir communiquer.
C'est ça, ça fera un tri au moins. Mais voilà.
Et on a fait le tour sur l'attachement évitant anxieux.
Mais oui.
Incroyable. Oh, en même pas une heure.
En même pas une heure. Mais franchement, bah écoutez, si jamais vous êtes reconnu dans nos types d'attachement, n'hésitez pas à nous le dire en DM ou sur le Insta. Toi, t'as un Insta pour ton podcast ou c'est ton Insta?
C'est mon Insta normal.
Donc le Insta de Aveline, c'est @impératricefou. Et moi, bah, vous pouvez suivre sur le podcast, le Insta du podcast, @anionyoupodcast sur Insta. Voilà. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode aussi.
Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de lâcher un 5 étoiles sur nos deux podcasts.
Vraiment. Et de partager.
Partager en story, lâcher un 5 étoiles, c'est obligatoire.
Et comme ça, vous pourrez aussi aider des gens qui ne savent peut-être pas qu'ils ont un type d'attachement.
Partagez cet épisode aussi à vos amis. Peut-être que vos potes vont avoir un déclic aussi.
Mais voilà, en tout cas, on vous fait de gros bisous. Et puis en plus, on peut dire toutes les deux à jeudi prochain.
À jeudi prochain.
Bye.
Bisous, guys.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.